35. Il n'y avait que deux sièges derrière la minuscule cabine de pilotage, et lorsque Seldon s'assit sur le coussin qui céda légèrement sous son poids, un filet s'avança automatiquement pour lui encercler les jambes, la taille et la poitrine, tandis qu'un casque lui descendait sur le front et les oreilles. Il se sentait emprisonné, et quand il se tourna sur la gauche, non sans mal et sans grand succès, il vit que Dorse était emmailloté de manière identique. Le pilote s'installa à son tour et vérifia ses cadrans. Puis il se présenta.
« Andorre Lévagnan, pour vous servir. Vous êtes sous filet parce que nous allons subir une accélération considérable au décollage. Une fois que nous serons en phase de vol, vous serez libéré. Inutile de me dire vos noms, ça ne me regarde pas. » Il se retourna et son visage de gnome tout ridé se fendit en un large sourire. « Des difficultés psychologiques, jeunes gens ?»«
Je suis une exo et je suis habitué à voler. » affirma Dorse d'un ton léger. « C'est également mon cas, » ajouta Seldon, non sans quelque dédain.
« Excellent, jeunes gens. Bien entendu, vous n'êtes pas dans l'aérojet banal, et c'est peut-être votre premier vol de nuit, mais je compte sur vous pour être à la hauteur. »
Lui aussi était pris dans un filet, mais Seldon remarqua qu'il avait les bras entièrement dégagés. Un bourdonnement sourd résonna dans la carlingue, gagnant en intensité et montant vers les aigus. Sans devenir désagréable, il menaçait de l'être, et Seldon esquissa un mouvement de tête comme pour évacuer le bruit de ses oreilles, mais la tentative ne fit que renforcer l'emprise du filet sur son crâne. Le jet bondit, c'est le premier terme qui lui vint pour décrire la chose, dans les airs, et Seldon se retrouva violemment plaqué contre l'assise et le dossier de son siège. Par le pare-brise devant le pilote, Seldon vit, avec un frémissement d'horreur, la façade lisse d'un mur s'élevait droit devant eux, puis une ouverture ronde apparut dans cette muraille, identique à la bouche où avait plongé leur aérotaxi le jour où Humin et lui avaient quitté le secteur impérial. Mais bien que celle-ci fût assez large pour admettre la carlingue du jet, elle n'était pas suffisante pour son envergure. Seldon tourna la tête sur la droite autant qu'il put, juste à temps pour voir l'aile de son côté se rétracter et disparaître. L'appareil plongea dans l'ouverture, fut saisi par le champ électromagnétique et aussitôt propulsé le long d'un tunnel illuminé. L'accélération était constante et l'on entendait à intervalles réguliers des cliquetis que Seldon supposa correspondre au passage devant chaque aimant. En moins de 10 minutes, l'engin fut recraché dans l'atmosphère, filant dans la soudaine obscurité des ténèbres environnantes. Le jet décéléra en s'éloignant du champ électromagnétique, et Seldon se sentit projeté contre le filet, où il resta collé quelques instants, le souffle coupé. Puis la pression cessa, et le filet disparut.
« Comment va, jeunes gens ?»
lança le pilote d'une voix joviale.
« Je ne sais trop, »
répondit Seldon. Il se tourna vers Dorse. « Vous vous sentez bien ?»«
Certainement, »
répondit-elle.
« Je crois que M. Lévagnan nous a fait une démonstration de ses talents pour voir si nous étions de vrais exos. Pas vrai, M. Lévagnan ?»«
Certaines personnes aiment bien les sensations, » dit le pilote. « Pas vous ?»«
Jusqu'à un certain point. »
À quoi Seldon ajouta, approbateur,
« autant que l'admettrait tout individu raisonnable. »
Puis il poursuivit.
« Cela vous aurait peut-être paru moins drôle, mon ami, si vous aviez arraché les ailes de l'appareil.
« Impossible, monsieur. Je vous ai dit que ce n'était pas un aérojet banal. Les ailes sont intégralement gérées par ordinateur. Elles changent de longueur, de largeur, de courbure et de forme générale en concordance avec la vitesse de l'engin, la force et la direction du vent, la température et une demi-douzaine d'autres paramètres. Ces ailes ne se briseraient pas à moins que l'ensemble de la cellule ne soit soumis à des contraintes susceptibles de la faire éclater. »
Un crépitement vint frapper la vitre de Seldon. « Il pleut ?» remarqua-t-il.
« C'est assez fréquent, »
dit le pilote. Seldon regarda dehors. Sur Helicon ou n'importe quel autre monde, on aurait vu des lumières, les œuvres flamboyantes de l'homme. Sur la seule Trentor régnait une telle obscurité. Enfin, presque, une fois il entrevit l'éclair d'une balise lumineuse. Peut-être les points les plus élevés de la couverture en étaient-ils équipés. Comme toujours, Dorse remarqua le malaise de Seldon. Elle lui tapota la main. « Je suis sûr que le pilote sait ce qu'il fait, Harry. J'aimerais en être aussi sûr que vous, Dorse.
Mais j'aimerais surtout qu'il partage une partie de ce savoir avec nous, dit Seldon assez haut pour être entendu.
Pas de problème, dit le pilote. Pour commencer, nous sommes en train de grimper, et nous serons au-dessus du plafond nuageux d'ici quelques minutes. Il n'y aura plus de pluie, et nous pourrons même voir les étoiles.
Il avait superbement calculé sa remarque, car quelques étoiles se mirent à scintiller à travers les ultimes nuées, puis toutes les autres brillèrent soudain dès qu'il eut éteint l'éclairage intérieur de l'habitacle. Seuls les pâles cadrans du tableau de bord restaient en compétition, tandis que derrière la vitre, le ciel jetait tous ses feux.
« C'est la première fois en plus de 2 ans que je vois les étoiles, » remarqua Dorse. « Ne sont-elles pas magnifiques ? Elles sont si brillantes, et il y en a tant. »
Trentor est plus près du centre de la galaxie que la majorité des mondes extérieurs,
nota le pilote.
Comme Helicon se trouvait dans un coin retiré de la galaxie et que son champ stellaire était réduit et peu impressionnant, Seldon en resta muet.
Quel calme soudain, remarqua Dorse.
Effectivement, dit Seldon.
Quel est notre mode de propulsion, monsieur Levagnan ?
Un moteur à microfusion et un mince pinceau de gaz brûlant.
Je ne savais pas que nous disposions de jets à microfusion opérationnels. On en parlait, mais
il existe quelques petits appareils comme celui-ci. Jusqu'ici, il n'y en a que sur Trentor et ils sont utilisés exclusivement par de hauts fonctionnaires du gouvernement.
Les tarifs de ce moyen de locomotion doivent être élevés.
Très élevés, monsieur.
Alors, combien a dû débourser Monsieur Min ?
Rien du tout. Monsieur Min est en excellent terme avec la compagnie propriétaire de ces appareils.
Seldon grommela. Puis il demanda :
Pourquoi n'y a-t-il pas davantage d'aérojets à microfusion ?
Trop cher, monsieur. Ce qui existe suffit à couvrir la demande.
Vous pourriez créer une demande supplémentaire avec des appareils plus grands ?
Peut-être. Mais la compagnie n'est jamais parvenue à fabriquer des moteurs à microfusion assez puissants pour des aérojets de plus grande taille.
Seldon songea à la remarque de Humin, se plaignant du déclin de l'innovation technologique.
« La décadence, » murmura-t-il.
« Quoi ?»
demanda Dorse.
« Rien.
Je pensais simplement à une remarque qu'avait faite Humin un jour. »
Il contempla les étoiles et dit « Allons-nous vers l'ouest, monsieur Levagnan ?»
Oui, effectivement. Comment l'avez-vous deviné ?
Parce que je me disais que nous devrions voir apparaître l'aube à présent, si nous nous étions dirigés vers l'est, à sa rencontre.
Mais l'aube, poursuivant la planète, finit par les rattraper. Et la lumière du soleil, du vrai soleil, illumina les parois de la cabine. Ce fut bref, car le jet plongea de nouveau dans les nuages. Le bleu et l'or firent place à un gris miteux. Seldon et Dorse protestèrent, déçus d'être si vite privés de quelques rayons de vrai soleil. Dès qu'ils eurent glissé sous le plafond nuageux, la couverture apparut aussitôt en dessous d'eux et sa surface, à cet endroit du moins, était un moutonnement de grottes boisées et de prairies. C'était le genre de paysage dont Clausia avait mentionné l'existence. Là encore, toutefois, Seldon n'eut guère le temps de s'attarder en observation. Une ouverture apparut sous leur appareil, bordé de lettres annonçant « Mycogène ». Ils plongèrent.